Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut et il est nécessaire parfois de revoir à la baisse ses attentes. Cette phrase, qui peut sembler anodine, se trouve à la page 63 du roman que nous allons découvrir aujourd'hui. Elle résume pourtant en quelques mots le destin de son héroïne qui s'appelle Najat. Est-ce réellement une héroïne ? D'ailleurs, la question peut se poser car Najat est tout sauf une icône victorieuse de la réussite absolue. C'est une jeune femme comme il y en a des millions, avec des rêves d'amour et de famille, des rêves de liberté et d'accomplissement de soi, des rêves qu'elle s'efforcera toujours d'atteindre, malgré les embûches, les déceptions, les trahisons, les coups du sort. Malgré tout cela, elle ne renoncera jamais. Et c'est en cela que Najat est bien une héroïne, une survivante. Najat ou la survie, le premier roman de Rania Berada vient de sortir chez Belfond et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Rania Berada.
Bonjour.
C'est au bord de la Méditerranée, hein, dans la station balnéaire de Saïdia, au nord du Maroc, pas très loin de la frontière avec l'Algérie, que débute notre récit. Najat est à la terrasse d'un café en compagnie de Younes, son petit ami. Et dans cette scène, déjà le lecteur découvre qui est Najat par petites touches, petit à petit. Et en fait, je trouve que tout le personnage de Najat est déjà résumé dans cette seule scène-là. D'abord, son caractère. C'est une fille sérieuse, on peut dire ça comme ça.
C'est une fille sérieuse et surtout, c'est une fille qui est pragmatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle se pose la question de quitter Oujda parce qu'elle est un peu obsédée par ça. Elle veut à tout prix partir de cette ville. Et puis à un moment donné, elle va rencontrer Younes, qui est un cousin, et qui va lui faire miroiter cela. Et donc elle va y croire. Elle va y croire et elle va le revoir plusieurs fois, puisqu'il va revenir souvent. Lui vit en Allemagne, il revient souvent la voir à Oujda. Et donc le roman s'ouvre sur cette scène-là, une scène où elle le retrouve enfin après des mois d'attente, où il lui fait miroiter encore pour la 10e fois qui va l'emmener.
Alors, elle est étudiante hein, à ce moment-là, Rania. Elle est en troisième année de licence à la faculté des sciences d'Oujda. Et Najat a choisi la biologie parce qu'elle aime ça. Alors, ça a l'air tout bête de dire ça. On choisit une filière parce qu'on aime ça. Sauf que pour elle, c'était un vrai choix et il a fallu qu'elle se batte pour qu'on lui laisse cette possibilité-là.
Exactement. Elle a affaire à un frère, pour le moins, on va dire, rigide. Qui n'avait pas envie qu'elle fasse des études poussées. Et donc, elle va aller à la confrontation une première fois pour pouvoir faire cette licence. Et puis elle va la mener à bien, elle va être licenciée et puis après elle va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Sauf que là elle va se rendre compte qu'il lui a passé ça une fois mais pas deux, elle ne pourra pas faire un master et surtout elle ne pourra pas faire ce qu'elle a envie de faire depuis toujours, à savoir de la recherche dans ce domaine en particulier dans lequel elle brille. Et donc là, va se poser la première, la question de la survie, puisque Najat, ça veut dire celle qui survit. Et donc comment faire pour partir, pour pouvoir mener à bien son projet, savoir faire de la recherche en biologie cellulaire et moléculaire.
Alors Riyad, lui, donc le grand frère, il aurait préféré que sa sœur devienne institutrice, comme d'ailleurs la femme de Riyad. Alors c'est un beau métier, institutrice, non ? Pourquoi est-ce qu'elle n'en veut pas ?
Mais elle en veut pas parce qu'elle veut autre chose, quoi, tout simplement. Elle a envie de faire de la recherche, c'est un peu ce qui l'anime depuis qu'elle a commencé à faire ces études-là. Et puis elle se dit, bon, bah, si je reste dans cette ville, le problème, c'est que j'ai deux chemins possibles, quoi. Soit je finis institutrice, soit je finis femme au foyer, qui est un peu le destin de 95% des femmes qui habitent dans cette ville.
Ouais, et ça irait parfaitement donc, à son grand frère qui s'appelle Riyad et dont l'ombre, on le sent, plane déjà sur elle dans cette première scène, donc dans la scène d'ouverture de votre roman, Rania Berada. Riyad, c'est donc une menace pour ses rêves, pour sa liberté. Elle est un peu nerveuse d'ailleurs. Il faudrait pas qu'il apprenne son escapade à Saïdia avec Younes. Et en fait, rien que le fait d'être déjà à Saïdia, donc à une cinquantaine de kilomètres, c'est ça, je crois, d'Oujda, 60 kilomètres, ça, c'est déjà briser un interdit, c'est prendre un risque, ça, pour le personnage de Najat.
Bah elle, c'est elle qui dit. Qui dit à Younes, retrouvons-nous là pour la bonne et simple raison que c'est plus simple, quoi. C'est-à-dire que s'il se retrouve à Oujda en centre-ville, sachant que ses deux frères travaillent à la Baladia, qui est donc l'équivalent de la mairie, Ça veut dire que potentiellement, ils peuvent les tomber sur eux à un moment donné. Donc, comme elle ne veut pas du tout prendre ce risque-là, elle prend l'initiative de lui dire bon, bah, retrouvons-nous un peu plus loin, un peu plus à, entre guillemets, à l'abri, quoi.
Alors, Younes, vous le disiez, Rania Berada, il est beaucoup plus vieux que Najat. Il a 40 ans, mais on ne peut pas dire qu'il soit mature pour autant.
Son Younes, prétendant.
Younes, oui.
Oui, enfin, c'est. Encore une fois, je le dis dans. J'ai écrit un moment. Elle ne tombe pas vraiment amoureuse de lui. C'est-à-dire qu'elle tombe amoureuse de la possibilité qu'il lui offre de pouvoir quitter cette ville, quoi. Ça veut dire, c'est pour ça que je disais en préambule qu'elle
était
pragmatique.
C'est la porte de
sortie. C'est la porte de sortie, quoi. Ça, à ce moment-là, on n'est pas dans une. Ce n'est pas une femme qui est amoureuse, c'est simplement une femme qui saisit une opportunité.
Allô, Joséphine.
Allez, laissez-moi de toi.
Ah bon, c'est comme ça.
Mais Aïni.
113, Taliani.
C'est bon.
Écoute.
Et un babour, y'a mon amour. Khrejni m'la misère.
Moi je suis de Californie, on fumait 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rimkal, malade mental, plus connu que le Hedge m'en bas. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme Cheb Hesni, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, vie Boston ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yahmar, lève-toi et danse.
Ça fait plaisir. Et un babour, y'a mon amour. Khrejni m'en la misère.
Partir loin, 113 featuring Taliani dans VMDN sur RFI avec Rania Berada dans le premier roman Najat ou la survie est sorti chez Belfond. Alors c'est une des chansons qui rythme
très bon
le
choix
livre,
musical dans cette
voilà,
émission.
Ben, vous m'avez un petit peu guidé, il faut le reconnaître. On va en parler longuement dans un instant de la musique puisque le roman est en fait une véritable playlist aussi. Hein. J'ai choisi de passer cette chanson-là pour une raison, le titre justement, Partir loin. Pourquoi Najat veut-elle à ce point partir et partir loin? Justement, partir en Europe.
Alors, pour deux raisons. La première qu'on a évoquée tout à l'heure, à savoir ce frère qui est un peu, on va dire, psychorigide et qui a ses obsessions et qui ne veut pas vraiment qu'elle la laisse faire d'études. Et puis, pour la deuxième raison, qui est qu'on est à Oujda, on est dans la région de l'Oriental. C'est une région qui a longtemps vécu sur la contremande, ce qu'on appelle la Batrabando. Les perspectives économiques sont pour le moins minces pour un grand nombre de personnes là-bas. Et donc, elle se dit, voilà, si je veux un jour trouver un travail, il faut que je parte, quoi. Il faut que je me sauve, il faut que je me tire d'ici.
Alors, Oujda, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de mettre en scène une famille originaire de cette ville-ci?
Parce que je connais bien cette ville, parce que, en fait, j'y ai passé tous mes étés, quoi. En fait, ma famille maternelle est originaire de cette ville, et c'est pour ça que j'ai situé mon roman en partie dans cette ville-là, parce que peut-être par flemme, parce que je connais bien. Quoi.
Non, mais c'est une excellente raison, effectivement. En tout cas, donc Najat, disons-le tout de suite, elle va être déçue, elle va pas partir en Allemagne grâce à Younes, et ça va être la première d'une longue série de déceptions et même de trahison. Alors là aussi, pourquoi l'Allemagne? Parce qu'il y a plusieurs scènes justement autour de l'Allemagne. C'est-à-dire que pour ce personnage de Najat, eh bien, c'est pas tellement la France, c'est pas tellement l'Espagne, c'est l'Allemagne. Alors j'ai regardé, l'Allemagne, c'est le 7e pays d'accueil de la diaspora marocaine, donc loin derrière la France ou l'Espagne. Et alors pourquoi est-ce qu'elle veut partir en Allemagne précisément ?
Parce que, alors, il y a toujours, alors c'est marrant, parce qu'il y a toujours des hommes, en fait, à un moment donné, dans l'histoire, qui jaillissent et qui lui font miroiter des choses. Alors, il y en a un autre, qu'elle rencontre. À côté duquel elle va s'asseoir pendant le mariage de sa sœur et qui lui dit, écoute, moi je vis en Allemagne depuis un moment et puis je peux te dire que là, spécifiquement dans cette branche que tu as choisie, on peut dire que l'Allemagne brille et que moi je serais ravie de t'accueillir, mais pour cela il faut que tu passes un test de langue, il faut que tu m'envoies un certain nombre de documents, etc. Donc elle va se mettre en tête de partir et tout faire pour pouvoir y aller. Quoi.
Voilà, elle va se donner à fond, elle va effectivement se mettre à apprendre l'allemand à vitesse grand V, elle va passer donc le DAF, ce fameux test d'allemand langue étrangère, et patatras, une erreur administrative va réduire ses projets à néant. Alors, est-ce que s'agit vraiment d'une erreur ? On peut sincèrement se poser la question. Nous sommes à la page 59 de votre roman.
Najat se demande si elle n'est pas maudite. S'il ne se trouve pas au-dessus de sa tête une étoile malveillante dont les radiations lui pourrissent l'existence. Son cœur se serre. Des larmes lui montent aux yeux, mais elle ne pleure pas. Quoi qu'il arrive, il faut laisser la géniardise aux faibles. Elle se répète cette phrase comme un mantra en serrant les poings. Pleurer, c'est se déshonorer, c'est donner raison à Riyad et à son accusation de douilletterie. Najat se calme, puis remonte sur la terrasse. Elle finit d'étendre le linge en racontant à Fatia ce qui s'est passé. Un récit dépassionné, se bornant aux faits. La mère veut creuser. Elle revient plusieurs fois à la charge. Comment se fait-il qu'il se soit trompé, lui qui pourtant est si consciencieux ? Lui avais-tu bien précisé la branche ? Pourquoi un refus ? Il aurait pu d'abord lui signaler que le vœu ne correspondait pas au dossier. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Najat refuse de s'apesantir. Elle se contente de répondre qu'elle n'en sait rien. Dans un sac de sport, elle fourre un gant de crin, du savon noir, un imposant Dove de 500 ml, plusieurs serviettes, des vêtements de rechange, puis elle fonce au hammam. Elle remplit deux seaux d'une eau presque bouillante, les tracte jusqu'à la salle du fond, la plus chaude. Elle passe sa main dans le gant et frotte son corps en repensant à la conversation. Il est hors de question qu'elle demande à ses sœurs de ressortir un demi-million de centimes pour le DAF, même si elle se fait violence et qu'elle leur demandait, même si elles arrivaient à nouveau à réunir la somme, ce serait peine perdue. Mokhtar n'aime pas l'acharnement. Elle connaît son père par cœur. Il lui dira que celui qui s'acharne va contre la volonté d'Allah et elle devra se plier à sa volonté à lui, le père. Dans le secret de la salle embuée, Najat pleure cette chance inespérée qui vient de lui filer entre les doigts. Ses larmes se mêlent aux peaux mortes et aux rigoles d'eau, dégringolent le long du sol légèrement pentu et finissent dans le caniveau.
Il va y en avoir des larmes et des déceptions tout au long de votre récit, Nadia Berada. Le calvaire de Najat ne fait en fait que commencer. La malédiction, la volonté d'Allah sont des choses qui pèsent sur la vie de cette famille. Quoi. On se laisse comme ça guider, malmener par ce qu'on pourrait appeler une forme de fatalité.
C'est une forme de fatalité. Et puis, c'est aussi. Alors, je dois dire quelque chose en fait. Quand j'ai relu mon texte, je me suis dit, mais j'ai éprouvé une sorte de mépris de classe pour ce personnage de Najat, en fait. J'ai bien fait d'aller au bout de ce texte, parce que au début, je me disais, mais elle associe tout à une espèce de déveine qui la suivrait depuis le berceau. En fait, c'est l'explication qu'elle trouve à son malheur à chaque fois qu'elle est confrontée à ce malheur-là. Mais en réalité, je me disais, mais non, en fait, il y a des explications beaucoup plus pragmatiques. On y reviendra peut-être. Il y a de la violence administrative, le déterminisme social, le patriarcat. Enfin, il y a pléthore d'arguments qu'on peut trouver pour expliquer cette destinée-là. Mais elle se borne à cette espèce de déveine, quoi. Et puis elle se dit, c'est. Mais en fait, je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort. Et je pense que ce destin-là, cette vie-là, elle est en partie liée à une malchance. Qui la suit et qui lui colle à la peau en vérité. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vu au début en commençant à écrire et puis que je m'en suis rendu compte en cours de route. Quoi.
Le père, donc, il s'appelle Mokhtar, est très religieux. D'ailleurs, s'il a accepté de laisser partir sa fille en Allemagne, c'est parce que l'oncle en question est très pieux, hein, donc celui qui vit à Berlin. C'est aussi d'ailleurs le cas de Riyad, donc le frère aîné qu'on évoquait tout à l'heure. L'importance de la foi, de la tradition aussi, en fait, elle est présente quelles que soient les générations dans cette famille.
Oui, mais enfin, c'est une famille, disons, moyenne de Oujda. Il faut savoir que Oujda est une ville qui est plus conservatrice que les autres villes du Maroc. Et que forcément, il y a le poids de cette culture, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi... Enfin, il y a quelque chose qui est très important à dire à ce sujet-là, c'est que souvent, vu de l'Occident, vu de France, puisque c'est le pays que je connais le plus, on a l'impression que le malheur des femmes, il est intimement lié ou exclusivement lié au patriarcat, à l'oppression des hommes. Alors qu'en vérité, c'est une partie seulement du problème, mais l'autre partie, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir le manque de perspectives économiques, le chômage, l'administration. Ça aussi, ça pèse sur la vie des femmes. Et c'était important pour moi de lier tout cela, de dire il n'y a pas que l'oppression des hommes. Il y a aussi toutes ces choses-là, et c'est important de le dire, quoi, et de l'écrire.
D'ailleurs, la petite sœur, donc Jamila, elle va se marier, elle va pouvoir quitter Oujda. Elle se marie avec un Marocain de Paris. Alors, elle va beaucoup changer, d'ailleurs. Elle est assez timide, hein, au départ, Jamila. Et puis, son départ va faire qu'elle va effectivement beaucoup s'ouvrir, devenir beaucoup plus extravertie. Mais son départ, c'est un choc, hein, finalement, pour Najat. Parce que sa petite sœur se marie avant elle, alors que c'est elle l'aînée. Et en plus, elle arrive à partir en Europe. Alors, il y a une autre sœur qui est aussi en Europe. Elle est partie à Rotterdam, aux Pays-Bas. Il y en a une qui s'appelle Najat aussi et qui habite Rabat avec son mari, Ahmed. Oui. Et Ahmed, pour les frères de Najat, c'est un, alors vous allez le dire avec l'accent parce que je ne vais pas y arriver, un Khouald Bassima.
Ah, alors, c'est Oudla Sema.
Voilà, très bien, Oudla merci.
Sema, ça veut dire littéralement le fils de la capitale. Ouais, quoi.
Et ça, c'est pas un compliment, ça, dans la bouche des frères.
Les frères l'aiment pas trop, quoi, parce que, en fait, à Oujda, on dit des gens de Rabat et de Kaza, Raibo. C'est-à-dire, Raibo, c'est un mot péjoratif pour dire les gens de là-bas, quoi, de l'Ouest. Et eux, ils ne l'aiment pas parce qu'en fait, ils incarnent la réussite pour leur père, Mortar. Il est celui qui a réussi parce qu'il est banquier, il est installé, sa fille à Mortal ne manque de rien avec cet homme-là. Donc pour lui, il incarne vraiment la réussite parce que le père Mortal, c'est un berger qui n'a pas fait d'études. Et donc la parole de son gendre, de Ahmed, est une parole sacrée avec laquelle on ne badine pas, quoi.
Oui, Ahmed et Ayad vont inviter Rania à les rejoindre. Alors à Rabat, c'est à 500 km d'Oujda, hein, ça fait une petite trotte quand même, on est à 5h, 5h30 de voiture, mais c'est presque un autre monde, quoi. C'est extraordinaire.
Alors vous avez fait un lapsus, vous avez dit Rania au lieu de Najat.
Ah voilà, comme quoi, vous voyez, oui, c'est très intéressant. Oui, Najat, oui.
Oui. Donc la question, pardon.
Oui, donc la question, Rabat, c'est un autre monde par rapport à Oujda. Quand elle arrive là-bas, elle bascule dans quelque chose de complètement différent.
Donc oui, en fait là, on est à un moment du récit où la France, où l'Allemagne, ce n'est plus possible. Donc elle abandonne cette idée. Ahmed arrive un jour pendant un repas de famille à Oujda et dit moi j'ai la solution. Il faut que tu viennes à Rabat faire tes études. Et comme c'est Ahmed qui le dit, Mortal dit Mazel Tov, ok, tu peux y aller. Donc elle arrive à Rabat. Et à ce moment-là, elle découvre un autre monde. Mais je ne voulais pas verser dans la facilité, parce que j'aurais pu très bien en faire une jeune femme qui arrive, qui découvre le monde avec un grand M et qui se met à fumer, à boire, à sortir, à faire la fête, etc.
Alors elle fréquente les gens qui se comportent ainsi, mais elle est un peu sur le reculoir.
Elle est un peu sur le reculoir, mais parce que ça aurait été trop facile, quoi. Moi, je voulais, coûte que coûte, dépeindre la vie d'une fille moyenne, normale, et ne pas verser dans le sensationnalisme et ne pas en faire une énième héroïne qui débarque dans la capitale et puis qui s'en donne à cœur joie parce qu'elle a été par ailleurs oppressée par son frère et son père, quoi.
Oui, en même temps, il y a quand même un point sur lequel elle change, c'est tout ce qui concerne le corps, quoi. C'est tout ce qui concerne le maquillage, elle va s'épiler, elle va aller dans les salons de beauté. Mmh. Aussi, c'est par le corps, finalement, que son changement de lieu de vie va se manifester dans sa vie.
Oui, mais parce que j'allais dire, c'est pas compliqué, tellement... C'était tellement un non-sujet à Oujda où elle était presque fliquée à chaque fois qu'elle sortait de chez elle parce qu'on la suivait. Elle avait un itinéraire très précis qui allait de la maison à la fac, puis de la fac à la maison. Que bon, quand elle arrive à Rabat et qu'elle a un semblant de liberté, évidemment qu'elle va découvrir ces choses-là. mais dans une proportion qui est la sienne, c'est-à-dire sans aller quand même beaucoup trop loin dans cette liberté. Elle a des valeurs, elle a des principes qu'on lui a inculqués et auxquels elle reste fidèle. Et je pense qu'on n'est pas libre quand on brise une contrainte, en tout cas, on peut la briser dans un certain cadre qu'on s'est assigné à soi-même, et c'est ce qu'elle fait, quoi.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Rania Berada pour Najat ou La Survie, son premier roman qui vient de sortir aux éditions Belfond. Alors vous vous moquiez très gentiment de mon lapsus il y a un instant. C'est vrai qu'un premier roman, c'est souvent soit une fiction pure qui nous emmène dans un univers complètement imaginaire, ou alors c'est le contraire, c'est-à-dire que très souvent, eh bien, il y a une dimension très autobiographique dans les premiers romans. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai commis ce lapsus dont je m'excuse à nouveau. J'espère que ça ne m'arrivera pas d'ici la fin de cette émission à nouveau. Mais quand même, je suis obligé de vous poser la question, est-ce qu'il y a dans ce roman une dimension sinon autobiographique, en tout cas une inspiration à partir d'une histoire vraie?
Oui, c'est inspiré de faits réels, comme on dit, mais ce n'est pas autobiographique. Enfin, ce que je partage avec Najat quand même, pour revenir à votre lapsus, c'est que il y a un moment donné où dans sa vie, l'administration française va avoir un poids prépondérant. Parce que va se poser la question des papiers, quoi, et qui est une question qui traverse toute la seconde partie du livre. Et là où il y a une correspondance avec ma vie à moi, si j'ose dire, c'est que je connais bien moi la préfecture, l'ambassade, toutes ces autorités, toutes ces juridictions. Et donc, s'il devait y avoir une dimension autobiographique là-dedans, c'est par rapport vraiment à cette question-là, cette question du titre de séjour, des papiers. Etc. Parce que c'est quelque chose que je connais. Alors, pas tout à fait comme Najat, mais disons que j'avais à cœur de raconter, en fait, cette administration-là, parce que je trouve qu'on ne la raconte pas suffisamment.
Oui, c'est vrai qu'on est, nous lecteurs, forcément en empathie avec elle, quand elle fait tous ses efforts, c'est un véritable parcours du combattant. Est-ce que vous diriez que l'administration, alors l'administration marocaine, et l'administration française, qu'elle soit consulaire ou qu'elle soit en France, est-ce que l'administration est inhumaine?
Alors, c'est une question presque philosophique. Inhumaine, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'administration contraint des vies. Et elle les contraint parce qu'elle module les destins. Elle modèle les destins. Et c'est exactement cette histoire qui est racontée. C'est-à-dire que je pense que sans l'administration française, sans les rigidités, sans les procédures, sans la lourdeur de ces procédures-là...
Et les délais, en particulier,
et les délais,
l'attente,
et les
d'autant que parfois, il y a des recours, il y a des procédures d'appel, enfin, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va en voir le bout.
Exactement, elle aurait peut-être eu une vie qui est complètement différente. Alors, je ne vais pas révéler la fin du livre, à un moment donné, elle fait le bilan de sa vie, et puis elle se rend compte que l'administration a vraiment eu une partie vraiment très, très, très importante dans la construction de ce chemin de vie, quoi.
Oui, c'est romanesque, en fait, les problèmes administratifs, Rania Berada.
Et puis, je pense qu'il faut j'en parlais avec un ami, là, juste avant de venir, je dis, mais il faut, dans les textes, il faut écrire des mots comme certificat de capacité à mariage, comme TCF, comme récépissé. Ces mots-là, il faut les écrire, il faut qu'ils soient dans les livres, parce que c'est des mots qui sont déterminants. Vraiment.
Alors, il y a aussi des événements historiques dans le roman. Par exemple, à un moment donné, la route d'Ayat va croiser des manifestations qui ont agité le Maroc à l'occasion de ce qu'on a appelé le printemps arabe dans la foulée des événements de Sidi Bouzid en Tunisie. Nous sommes à la page 145.
Cette année-là, pendant que le monde arabe mène une grande entreprise d'exfoliation des pores et d'élimination des cellules mortes, père et fille s'installent tous les jours à l'heure du thé devant le poste. Ils assistent hagards à la chute de gouvernants qu'ils pensaient à jamais indéboulonnables. Ils suivent, abasourdis par l'ampleur de la contestation, des directs de reporters depuis des places noires de monde. Passé le temps de la surprise, Mokhtar, pour qui Ben Ali, Kadhafi, Moubarak, Al-Assad font presque partie de la famille, concentre toutes ses forces sur l'analyse de la situation. Comment expliquer que ces hommes, dont il a pris des nouvelles à la radio et à la télévision depuis tant d'années, tombent comme des mouches? Il ne peut y avoir qu'une seule explication. Les États-Unis et Israël se sont ligués pour anéantir ses frères et sœurs musulmans. Plutôt que de leur faire la guerre frontalement, comme cela a été le cas en Irak, ils ont échafaudé un plan diabolique bien moins onéreux et bien plus discret. Leurs services de renseignement ont gangréné l'opinion publique de l'intérieur et ont trouvé dans la jeunesse, dont la propension à la révolte pour un oui ou pour un non est incommensurable, une alliée de taille. Mokhtar fait rouler les perles en ivoire de son tsabib, trempe son kaak dans un thé à la menthe pour le ramollir, le porte à son dentier, et en même temps qu'il mastique un bout de pâtisserie, régurgite sa haine contre l'Occident qui s'échoue en deux cumulus baveux aux commissures de ses lèvres. Il prédit, et la suite des événements lui donnera raison sur ce point, une décennie noire pour le monde arabe.
Avec le recul, Rania Berada, quel regard est-ce que vous portez sur ce moment-là, justement, sur ce qui s'est passé, sur cet espoir souvent déçu d'ailleurs, suite à ce qui s'est passé en Tunisie?
Alors, au Maroc, bon, je pense que je ne vais rien apprendre à vos auditeurs. On ne peut pas véritablement parler de printemps arabe. Il y a une sorte d'émanation qu'on a appelée le 20 février, qui est un mouvement de contestation marocain, en référence à ces milliers de personnes qui sont sorties ce jour-là pour demander plus de justice, plus de dignité, la fin de la corruption, du clientélisme, etc. Et il y a eu ça a été quand même un moment charnière puisque c'est l'arrivée au pouvoir des islamistes qu'on pourrait appeler des islamistes modérés parce que le parti de la justice et du développement c'est pas non plus les frères musulmans ou les talibans, mais en tout cas c'est la première fois qu'ils arrivaient au pouvoir. Ils vont rester au pouvoir pendant 10 ans jusqu'à cette déroute de 2021 où vraiment ils sont sortis par la petite porte, ils se sont fait laminer. Au moment où ils arrivent au pouvoir en 2011, à la faveur de cette contestation, il y a un grand espoir qui naît dans la population. C'est-à-dire que même des gens qui n'étaient pas en phase avec leur idéologie, qui n'avaient rien d'islamiste, ont voté pour eux sur le programme économique. Parce qu'ils ont fait leur campagne sur la fin du chômage, sur la fin de la corruption, sur l'indépendance de la justice, etc. Donc, ils ont soulevé un véritable espoir chez la population. Je pense que cet espoir-là, malheureusement, s'est délité au fur et à mesure. Et au bout de 10 ans, la sentence a été celle qu'elle a été en 2021. Et ils se sont fait évincer, quoi. Mais je pense que l'espoir qu'a porté la population à ce moment-là, ils n'ont pas été à la hauteur de cet espoir-là.
À plus petite échelle, le roman est aussi, Rania Berada, une histoire d'amour, souvent d'amour compliqué, d'amour déçu, mais aussi de trahison et de mensonge, une histoire d'envie d'être mère aussi. Et franchement, je trouve que vos personnages masculins, à part quelques exceptions quand même, en particulier des étudiants justement qui a participé aux manifestations qu'on vient d'évoquer, mais globalement, vos personnages masculins sont assez médiocres, pas francs du collier.
Je vais la dire à ma psy.
Voilà, ça, ils sont soit tyranniques, soit au contraire très faibles. Quoi. Oui, vraiment, c'est des personnages assez médiocres, des gens qu'on n'a pas forcément envie de côtoyer. Vous ne trouvez pas ?
Alors, oui et non, mais je trouve qu'il y a quand même... Je vous trouve un peu dur avec mes personnages masculins, parce que je pense qu'on peut un peu nuancer ce diagnostic-là, parce que là, je prends l'exemple de celui qu'on a le plus envie de détester, à savoir le grand frère. Bon, je pense que s'il lui interdit de faire des études... Certes, c'est un garçon qui est pas sympa, quoi, mais je pense qu'au-delà de ça, il faut aussi essayer de se mettre à sa place, de se mettre à la place de ce personnage, essayer de comprendre ce qui pèse sur lui. Lui, on l'a, d'une certaine façon, ôté la possibilité de prendre la relève du père et de pouvoir assumer financièrement sa famille. Et on lui a ôté la possibilité de faire des études à un moment donné. C'est-à-dire qu'on lui a dit, maintenant, il faut que tu assumes parce que ton père a été mis à pied, il ne trouve pas de travail. Et donc, il faut que tu, de façon précoce, tu prennes le relais. Et je pense que ce traumatisme-là, alors qu'il c'était un étudiant brillant en mathématiques, n'est pas sans conséquence sur l'homme qu'il est devenu. Donc, il faut aussi, je pense... ne pas aller très vite en besogne en se disant « Bon, lui, c'est la culture ou la société. » Il faut aussi essayer de comprendre les hommes qui oppressent et essayer d'aller à l'origine de cela. Et je pense qu'en partie, sa façon d'être avec sa sœur peut être expliquée par cette déroute qu'il a subie très tôt dans sa vie.
رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلتك وقبلي.
Yaya avec Darman et Larachi dans VMDN sur RFI. Une autre chanson que l'on entend résonner en lisant ce premier roman, Rania Berada, que vous publiez chez Belfond et qui s'intitule donc Najat ou la survie. Alors c'est une chanson populaire, on la connaît bien, hein, notamment en France à travers la version du regretté Rachid Tahar, et c'est pas la seule. Alors on a entendu tout à l'heure 113 et Reda Taliani, mais aussi Nassel Riwan. Samira Saïd et Chep Mami. Il y a aussi Talbi One. En français dans le texte, Slimane Azem et Nourdine Méziane.
D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse.
Et enfin, Cheikh Mohamed El Younsi.
احنا غربة طالت غربتنا ونار الغربة كواتنا بين العينين.
Passeport Lardar, c'est le nom de cette chanson. Alors à chaque fois, Rania Berada, vous citez un vers ou deux hein, de chacune de ces chansons, une sorte de clin d'œil d'ailleurs directement inspiré par les péripéties du livre et les difficultés vécues par votre héroïne Najat. Comment est-ce que vous les avez choisies ces chansons ? Sont-elles qui ont inspiré le texte ou bien c'est le texte qui naturellement, sans forcément beaucoup d'efforts, vous ont conduit à les insérer de ces chansons?
Alors, il y a eu plusieurs. J'ai eu plusieurs réponses à cette question. Il y en a que j'écoutais pendant que j'écrivais. Et alors, de façon complètement hasardeuse, parfois, pendant que j'écrivais, j'écoutais un extrait. Je me disais, mais là, ça résonne parfaitement avec ce que je suis en train d'écrire. Par exemple, Talbi One, que j'adore, que j'écoute tout le temps, en fait. Alors lui, c'est bien simple, j'aurais pu citer, je sais pas, au moins 10 de ses chansons, tellement ça avait un écho particulier quand j'écrivais. Et puis d'autres qui se sont un peu imposés à moi, la carte de résidence, bon, ça c'est un classique, je pense que je suis pas la première à citer cette chanson. Et puis d'autres encore, comme le... Nassel Riwan, Fenradi Biyahoya, ça c'est pareil, c'est une chanson que j'écoute depuis toute petite et à un moment donné dans le récit j'ai fait le lien entre ce que j'écrivais et les paroles.
Donc il y a des chansons très anciennes, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus récentes, il y a des styles musicaux différents aussi. Il n'y a pas que des Marocains, parce que plusieurs des artistes qu'on a entendus là sont Algériens, et quand on connaît les relations compliquées entre les Marocains et les Algériens, on peut s'en étonner.
C'est ma façon de dire khawa khawa.
Voilà.
Khawa khawa, c'est on est frères et moi je peux pas. Moi, ma mère est de Oujda. J'ai passé
donc on est vraiment pas loin de la frontière avec l'Algérie.
J'ai passé 3 mois tous les ans pendant 17 ans à Oujda. Je suis juste à côté de l'Algérie. Enfin, moi j'ai toujours vécu algérien, lu algérien, écouté algérien. Enfin, je suis un peu algérienne d'une certaine façon. Donc évidemment que je rends hommage à la chanson algérienne dans mon livre.
Et pourquoi donner justement autant de place à la chanson ? Pourquoi rythmer le livre avec ces clins d'œil-là, qui sont plus que des clins d'œil d'ailleurs ?
Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse la réponse de l'écrivaine qui voulait être chanteuse, qui a raté une carrière ?
Attends, je voudrais que vous me fassiez la réponse de la sincérité, quoi, que vous nous expliquiez pourquoi.
Pourquoi la musique ? Mais parce que moi, quand j'écris, j'écoute de la musique souvent. Et parfois, je peux pas écrire si j'ai pas écouté de la musique. Parce que ça m'inspire et ça résonne et puis ça me donne envie de trouver les mots justes, les mots qu'il faut, quoi. Et c'est un art qui m'inspire, tout simplement. Enfin, je vois pas d'autre réponse que celle-ci, quoi.
Et comment vous l'avez chapitré, le livre? Parce que c'est assez singulier, quoi. Il y a deux grandes parties. Ensuite, il y a des sous-parties. Alors, les chansons, justement, elles arrivent à des moments précis. C'est pas si évident que ça, quoi. On sent qu'il y a une vraie recherche derrière.
Oui, alors j'ai essayé. Bon, les deux parties, ça s'est imposé, quoi. La partie marocaine et puis la partie française. Bon, là. Et puis les sous-parties, c'est pas tant de recherche que ça, en fait. Je voulais juste. À un moment donné, je me suis dit, ça serait bien qu'il y ait une playlist dans ce livre. Et donc, j'ai chapitré selon les chansons parce que, à un moment donné, j'étais allée au bout d'une idée, ça faisait une sous-partie, il y avait une espèce de cohérence dans la trame narrative qui correspondait à une chanson, et j'ai fait mes sous-parties comme ça, quoi.
Alors il y a donc effectivement deux grandes parties, alors Ogra et Khorba, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais vous allez me corriger, allez-y.
Ogra ou Gharba.
Bon, Gharba. Voilà, très bien. Gharba. Donc le premier mot, ça veut dire dédain. Il y a un petit astérisque, hein, je crois, qui oui. permet effectivement aux
au lecteurs
non arabophones de traduire. Et l'autre, c'est exil. Bon, alors l'exil, on comprend, ça va de soi. Ouais, ouais. Mais pourquoi avoir intitulé la première partie du livre « Dédain » ?
Alors, l'Hagra, c'est le pouvoir qu'exerce celui qui le détient, donc ce pouvoir-là, sur celui qui ne le détient pas. Et l'Hagra, c'est vraiment un mot qu'on retrouve beaucoup au Maroc et en Algérie à chaque fois qu'il y a des contestations, des mouvements comme le 20 février ou d'autres, hein, ou même le Hirak ou ce genre de choses, parce que c'est vraiment un mot qui n'a pas d'équivalent en français, et c'est pour ça qu'il est intraduisible, mais qui veut dire vraiment c'est le pouvoir que détient celui qui oppresse. Alors l'oppresseur, et c'est pour ça que ça a été le nom de le titre que j'ai donné à cette première partie, ce n'est pas seulement les hommes, c'est aussi l'administration, c'est aussi les hommes politiques, c'est aussi donc c'est une oppression qui est plurielle, quoi. C'est pour ça que ça donne le nom ça a donné son nom à cette partie là
voilà. Et le titre du livre, c'est donc Najat ou la survie. Alors, ça veut dire quoi, Najat, d'ailleurs ?
Celle qui survit.
Voilà, donc celle qui survit ou la survie. C'est ça le titre en français, si je veux dire.
Beaucoup de
survie. Est-ce à dire, donc c'est évidemment pas un hasard si votre personnage s'appelle ainsi, mais est-ce que est-ce à dire que la vie, quand on a la naissance, quand on a la famille de Najat, de votre personnage, est-ce à dire que c'est un rêve impossible ?
Son rêve de faire de la...
Non, c'est-à-dire que est-ce que... On ne peut pas vivre quand on est Najat, on ne peut que survivre.
Alors, ça c'est la question qui traverse tout le livre. Pourquoi elle survit ? Elle survit parce que c'est une femme dont ces 20 ans de vie qui sont racontés dans ce livre-là, c'est une vie qui est faite, qui est tissée de compromis, voire de compromissions, et pas de choix. C'est-à-dire que la réponse qu'elle apporte à chaque fois, c'est parce qu'elle est acculée. C'est-à-dire qu'il y a des données avec lesquelles il faut composer. Et donc, pour composer, il faut bien sûr trouver des stratégies pour survivre à quelque chose qui lui tombe sur la tête. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais de l'avance sur sa vie, mais elle est toujours acculée et elle répond par rapport à cette situation quand elle est dos au mur. Et c'est pour ça qu'elle survit et qu'elle ne vit pas.
Mais est-ce qu'elle aurait pu vivre ? Ça veut dire qu'elle est passée à côté de sa vie ? En choisissant justement la survie, ou est-ce qu'elle l'a choisi réellement justement la survie ? Ça s'est imposé à elle ?
Est-ce qu'on vit vraiment quand on n'a pas de perspective, quand je dis perspective, c'est économique comme je disais tout à l'heure, mais aussi quand on est sous le joug de l'oppresseur, et c'est un oppresseur pluriel, quand on vit dans un pays où les promesses gouvernementales ne sont pas tenues, quand je pense pas qu'on peut dire qu'on vit vraiment quand on est à la jonction, parce que c'est ça le livre, en fait, ça c'est le cœur du livre, c'est quand on est à la jonction de toutes ces violences-là qui, in fine, créent une super violence. Est-ce qu'on est en mesure de vivre ? C'est la question que pose le livre.
Merci beaucoup, Rania Berada. Najat ou la survie est paru chez Belfond. Allez, on reste au Maroc, mais cette fois, on part à Marrakech pour visiter un jardin extraordinaire. Bonjour, Sidonie Gauchet.
Bonjour.
Vous allez nous faire visiter un jardin extraordinaire et parler d'architecture autour de la Fondation Majorelle et du musée Yves Saint-Laurent. Alors le jardin Majorelle, c'est une résidence qui abrite le second plus beau jardin au monde, créé par le peintre et designer français Jacques Majorelle, donc dans les années 1920. Tombée en ruine, la villa, elle échappe à un développement hôtelier lorsque Yves Saint-Laurent et Pierre Berger décident de le racheter en 1980.
Bah allez, on rentre dans le vif du sujet, le bleu. Combien de couleurs bleues connaissez-vous, Jean-François ?
Oh, je sais pas, il y en a beaucoup comme le bleu marine, bleu cyan, bleu outre-mer, bleu ciel, bleu céladon, bleu pétrole, enfin...
Est-ce que vous connaissez des bleus créés par des peintres ?
Ah bah le bleu d'Yves Klein, forcément.
Et oui, bien sûr, un bleu profond, ultramarine, électrique. Eh bien, il y a aussi le bleu majorelle, un bleu très original, à la fois intense et clair, entre le cobalt et le bleu outre-mer. Ce bleu, qui rappelle le bleu des céramiques marocaines, porte le nom du peintre Jacques Majorelle. Il était amoureux du Maroc. Il en a peint les paysages et les casbahs berbères en créant des couleurs somptueuses avec de l'or et de l'argent. Mais ce qui a éclipsé son travail de peintre, c'est bien la création d'un jardin, vous l'avez dit Jean-François, extraordinaire. Yves Saint-Laurent et Pierre Berger seront séduits par cette oasis où les couleurs de Matisse se mêlent à celles de la nature.
Oui, on dit même, Sidonie, que c'est le deuxième plus beau jardin du monde.
Oui, juste devant les jardins du Luxembourg à Paris. Ce jardin, c'est ma vie, a dit Majorelle, passionné, qui troque ses peintures contre de nouvelles essences pour étoffer son parc. Un hectare qui rassemble une variété botanique incomparable, des cactus importés du sud-ouest des États-Unis, des palmiers du Pacifique, des nénuphars et des bambous d'Asie, des hibiscus aux fleurs rouges et j'en passe. Il veut en faire une cathédrale de formes et de couleurs. Alexis Sornin, le directeur du musée Yves Saint-Laurent Marrakech, nous en parle.
En 1947, le jardin Majorelle a ouvert au public, puis a été racheté en 1980 par Pierre Berger et Yves Saint-Laurent pour garder cette fonction de jardin public dans la ville de Marrakech. Il a été gardé et préservé comme étant un jardin ouvert au public. Mais peut-être faut-il penser à une forme de conservatoire, un exemple d'un jardin qui se pense en relation avec son histoire longue maintenant depuis 1947 et en fait depuis les années 1920, date à laquelle le peintre Jacques Majorelle a conçu ce jardin. Il a à la fois un espace intérieur, mais aussi un espace extérieur, qui est agrémenté de végétation, mais aussi d'un bassin, et qui est frais le printemps et l'été quand il fait moins frais dehors, justement. Je trouve qu'on y se trouve très bien. Je pense qu'il rassemble toutes les fonctions de l'institution, Fondation Jean Majorelle, le musée, bien sûr, l'eau et aussi la végétation, bien sûr.
Et oui, le jardin Majorelle se comprend aujourd'hui en relation avec le musée Yves Saint-Laurent. À quelques pas, Yves Saint-Laurent aussi, tout comme Majorelle, adorait Marrakech. Il disait que cette ville lui avait appris la couleur, qu'il embrassait sa lumière. Et si on s'intéresse un peu à l'architecture, on remarque une volonté de cohérence entre l'intérieur et l'extérieur du musée, tout en voulant construire une capsule hors du temps, comme le jardin Majorelle.
Nous sommes devant le bâtiment du musée Yves Saint-Laurent à Marrakech. Une fois que l'on pénètre dans le bâtiment, on est accueilli par une cour ronde qui évoque de manière indirecte l'architecture vernaculaire des maisons particulières, des riades. La particularité de cette cour, c'est qu'elle est ronde plutôt que rectangulaire, mais surtout que l'on ne voit que le ciel, on ne voit que les murs qui nous entourent, comme un cercle qui nous encercle, et l'on voit le ciel, et en l'occurrence aujourd'hui des nuages. L'idée des architectes, je crois, Sidokao, était d'offrir un moment de réflexion ou de recueillement entre l'espace public, qui tend à être bruyant à Marrakech, et un espace plus méditatif, plus recueilli, celui d'un musée ou d'un espace d'un auditorium.
Et jusqu'à quel point, Sidonie, peut-on filer la métaphore, si je puis dire, du vêtement dans l'architecture ?
Filer la métaphore comme un fil de couture, vous voulez dire ? Eh bien, c'est tout à fait possible, et c'est ce que les architectes ont fait pour mettre en valeur les créations d'Yves Saint-Laurent. C'est ce qu'Alexis Sortin nous explique.
Ce bâtiment, il est revêtu de briques. Ces briques sont des briques plates qui viennent de Tétouan. Elles sont couleur brique, rouge, un peu brun. Mais elles ont aussi, elles dessinent par leur alignement, un motif qui est différent d'un mur à l'autre. Ce motif évoquant, à y regarder d'un peu plus près, la texture, le tissage, en laine par exemple, d'un vêtement. Le tissage d'un vêtement, c'est donc une métaphore textile pour un bâtiment qui montre surtout des vêtements, bien que pas seulement des vêtements. tandis qu'à l'intérieur de ce bâtiment, les murs sont lisses, un peu comme la doublure d'un vêtement qui, elle, n'est pas rugueuse, mais au contraire lisse au contact du corps.
Et à l'intérieur, on découvre les plans, les dessins et les matériaux du bâtiment qui retracent la genèse du projet. Tout commence par un coup de fil de Pierre Berger au cabinet d'architecte K.O. et 1423 jours plus tard, l'inauguration du musée, que Pierre Berger aura donc imaginé mais jamais vu, puisqu'il décède un mois avant l'ouverture.
Cette action retrace donc par le biais d'une sélection de dessins, de photographies, mais aussi de détails de matériaux, le bâtiment dans lequel nous sommes. Et l'avantage de faire ce type d'exercice, c'est qu'on peut aller voir sur les lieux ce que le dessin a produit, ce qu'une idée sous la forme de croquis a rendu, comment elle a été développée, toucher les poignées de porte, regarder par les fenêtres ou les vitraux colorés, toucher le granito qui compose l'ensemble des surfaces au sol de ce bâtiment, et ainsi de suite. En d'autres termes, apprécier de manière tactile et visuelle un bâtiment qui est non seulement un musée, une institution consacrée à un couturier, mais aussi un bâtiment fait de pierre et de briques, fait de ciment et de vitres, de chair et d'os en quelque sorte.
Oui, autrement dit, donc trois lieux en un à visiter à Marrakech, Sidonie.
Oui, comme une sorte de sainte trinité architecturale, végétale et culturelle, particulièrement envoûtante, à déambuler dans le tableau vivant qu'est le jardin Majorelle, parmi les végétations centenaires, on se remémore les mots d'Aragon dans Le Paysan de Paris, « L'éternité commence un soir par un jardin ».
Le jardin Majorelle ouvert donc tous les jours et l'exposition Studio K.O. à découvrir au musée Yves Saint-Laurent à voir jusqu'au 4 juillet 2023. Merci Sidonie. Alain Chamfort sur RFI, extrait de l'album Une vie Saint-Laurent. Dans un instant, le journal, on se retrouve demain avec Paul Saint-Brie pour un premier roman passionnant autour de la restauration de la Joconde, l'allègement des vernis, est paru chez Philippe Ray, et vous m'en direz des nouvelles.